Il était sur son char.
Amateur.
Il n'y a pas d'art neutre. L'art combat ou sert la cause prolétarienne.
Noble.
Journal vivant.
Construction. Obéir à sa voix.
Ah oui, c'est un malade, hein, c'est un vrai dingue. Il est capable de tout faire. Oui.
Imiter son silence.
Bonjour. Bonjour tout le monde, vous êtes au Théâtre de la Gamelle sur Radio Canu 102.2 et on est tous là aujourd'hui, tous et toutes, pour vous faire une émission sur des meufs, des femmes en milieu prolétaire, en milieu, en classe défavorisée. Voilà, c'est un peu le thème de la journée. Et pour ce faire, on est quelques-uns, quelques-unes. Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Ah, vous êtes là. Je me sens moins seule.
Merci Sarah d'avoir organisé cette émission.
Merci Anne-Sophie d'être là.
Et il y donc, a aussi avec nous, il y a, je te laisse te présenter peut-être.
Je m'appelle Emma.
On a aussi la présence de
Louise.
Et Gauthier.
Et voilà. Et on va vous lire plusieurs extraits de bouquins sur ce thème. On va commencer par Les petits enfants du siècle de Christiane Rochefort. Ensuite, on lira des passages de Peau de Dorothy Allison. Et enfin, La place de Annie Ernaux. Et bonjour, Sofiane à la technique.
Voilà, merci.
Voilà, on commence sans plus tarder sur Les petits enfants du siècle de Christiane Rochefort. Donc Christiane Rochefort, comme on a vu, qui était une militante féministe française, participante du MLF. Voilà.
Je suis née des allocations et d'un jour férié dont la matinée s'étirait, bien heureuse, au son de « Je t'aime, tu m'aimes », joué à la trompette douce. C'était le début de l'hiver, il faisait bon dans le lit, rien ne pressait. À la mi-juillet, mes parents se présentèrent à l'hôpital. Ma mère avait les douleurs. On l'examina et on lui dit que ce n'était pas encore le moment. Ma mère insista qu'elle avait les douleurs, il s'en fallait de 15 bons jours, dit l'infirmière, qu'elle resserre sa gaine. « Mais est-ce qu'on ne pourrait pas déclarer tout de même la naissance maintenant ?» demanda mon père. « Et on déclarerait quoi ?» dit l'infirmière. « Une fille, un garçon ou un veau ?» Nous fûmes renvoyés sèchement. « Zut !» dit mon père, « c'est pas de veine. À 15 jours, on loupe la prime. » Il regarda le ventre de sa femme avec rancœur. On n'y pouvait rien. On rentra en métro, il y avait des balles, mais on ne pouvait pas danser. Je naquis le 2 août. C'était ma date correcte, puisque je résultais du pont de la Toussaint. Mais l'impression demeura que j'étais lambine. En plus, j'avais fait louper les vacances en retenant mes parents à Paris pendant la fermeture de l'usine. Je ne faisais pas les choses comme il faut. J'étais pourtant, dans l'ensemble, en avance. Patrick avait à peine pris ma place dans mon berceau que je me montrais capable, en m'accrochant, de quitter la pièce dès qu'il se mettait à brailler. Au fond, je peux bien dire que c'est Patrick qui m'a appris à marcher. Quand les jumeaux, après avoir été longtemps égarés dans divers hôpitaux, nous furent finalement rendus, du moins on pouvait supposer que c'était bien eux, en tout cas c'était des jumeaux, je m'habillais déjà toute seule et je savais hisser sur la table les couverts, le sel, le pain et le tube de moutarde, reconnaître les serviettes dans les ronds. « Et vivement que tu grandisses, disait ma mère, que tu puisses m'aider un peu. » Elle était déjà patraque quand je la connus. Elle avait une descente d'organes. Elle ne pouvait pas aller à l'usine plus d'une semaine de suite car elle travaillait debout. Après la naissance de Chantal, elle s'arrêta complètement. D'ailleurs, on n'avait plus avantage avec le salaire unique et surtout pour ce qu'elle gagnait, sans parler des complications avec la sécurité à chaque arrêt de travail et ce qu'elle allait avoir sur le dos à la maison avec 5 tous petits enfants à s'occuper. Ils calculèrent qu'en fin de compte, ça ne valait pas la peine, du moins si le bébé vivait.
Maintenant, notre appartement était bien. Avant, on habitait dans le 13e, une sale chambre avec l'eau sur le palier. Quand le coin avait été démoli, on nous avait mis ici. On était prioritaires. Dans cette cité, les familles nombreuses étaient prioritaires. On avait reçu le nombre de pièces auxquelles nous avions droit, selon le nombre d'enfants. Les parents avaient une chambre, les garçons une autre. Je couchais avec les bébés dans la 3e, On avait une salle d'eau, la machine à laver était arrivée quand les jumeaux étaient nés. Et une cuisine séjour où on mangeait. C'est dans la cuisine où était la table que je faisais mes devoirs. C'était mon bon moment. Quel bonheur quand ils étaient tous garés et que je me retrouvais seule dans la nuit et le silence. Le jour, je n'entendais pas le bruit, je ne faisais pas attention. Mais le soir, j'entendais le silence. Le silence commençait à 10h. Les radios se taisaient, les piaillements, les voix, les tintements de vaisselle. Une à une, les fenêtres s'éteignaient. À 10h30, c'était fini. Plus rien. Le désert. J'étais seule. Ah, comme c'était calme et paisible autour. Les gens endormis. Les fenêtres noires. Sauf une ou deux derrière lesquelles quelqu'un veillait comme moi, seul, tranquille, jouissant de sa paix. Je me suis mise à aimer mes devoirs peu à peu. À travers le mur, le grand ronflement du père, signifiant qu'il n'y avait rien à craindre pour un bon bout de temps. Parfois, un bruit du côté des bébés. Chantal qui étouffait, couchée sur le ventre. Catherine qui avait un cauchemar. Je n'avais qu'à les bouger un peu et c'était fini. Tout rentrait dans l'ordre, je pouvais retourner.
Un peu plus tard, c'était une mauvaise passe. Il comptait le moindre sou. « Je sais pas comment tu t'arranges, » disait le père. « Je sais vraiment pas comment tu t'arranges. » Et la mère disait que s'il n'y avait pas le PMU, elle s'arrangerait sûrement mieux. Le père disait que le PMU ne coûtait rien. Rien l'un dans l'autre, avec les gains et les pertes qui s'équilibraient. Et d'ailleurs, il jouait seulement de temps en temps, et s'il n'avait pas ce petit plaisir, alors qu'est-ce qu'il aurait ? La vie n'est déjà pas si drôle. « Et moi, qu'est-ce que j'ai ?» disait la mère. « Moi, j'ai rien du tout. » Pas la plus petite distraction dans cette vacherie d'existence, toujours à travailler du matin au soir pour que monsieur trouve tout prêt en rentrant et se mettre les pieds sous la table. Merde, disait monsieur, c'est bien le moins, après avoir fait le con toute la journée à remplir des tubes d'une cochonnerie de moutarde et arriver crevé après 1h30 de transport. Si encore il avait une bagnole, ça le détendrait un peu. Ah, c'est bien le moment de penser à une bagnole. Ah, c'est bien le moment, oui. Partait la mère. Quand on n'arrive même pas à ravoir la télé de Patrick, qui n'a plus de chaussures avec ses pieds, qui n'arrête pas de grandir. C'est de ma faute, dit Patrick. Oh, tais-toi, dit le père. Ça ne te regarde même pas. Mais j'ai mal aux pieds, dit Patrick. Tu vas te taire, ouais? Le soir, on savait pas quoi foutre sans télé. Toutes les occasions étaient bonnes pour des prises de bec. Le père prolongeait l'apéro, la mère l'engueulait. Il répondait que pour ce qui était marrant, de rentrer pour entendre des récriminations. Il n'était pas pressé, mais ça recommençait. Les petits braillaient, on attrapait des baffes perdues.
Un jour, une dame vint à la maison et demanda si les enfants allaient au catéchisme. C'était un jeudi, après le déjeuner, j'habillais les petites pour les sortir. Maman repassait. La dame expliquait les avantages qu'elle aurait à envoyer les enfants au catéchisme. Maman n'avait pas d'avis. « Si Patrick était au Louveteau, » dit la dame, « il irait en sortie le jeudi et le dimanche. » Maman débrancha le fer. Elle demanda si les jumeaux étaient assez grands aussi pour ses sorties du jeudi et du dimanche. Par contre, de moi, elle avait besoin. La dame expliqua que le patronage n'était pas obligé, il suffisait que j'aille au catéchisme 1 heure par semaine après la classe. Ma mère ne savait pas. Il faudrait qu'elle demande au père. Je finissais de boutonner le manteau de Chantal. Je dis, moi je voudrais y aller au catéchisme. Ma mère me regarda étonnée. La dame me fit un tel sourire que je faillis regretter. Elle ressemblait à un fromage blond. On ne trouva rien contre. Bah, comme ça ce sera fait, dit ma mère. Le lundi, en sortant de l'école, je prenais à gauche au lieu de droite et je rentrais 1h30 plus tard à la maison, quand tout était prêt. Ça valait la peine. La maîtresse ouvrit le livre et dit « Qu'est-ce que Dieu ? Dieu est un pur esprit infiniment parfait. » Jamais de toute ma vie je n'avais entendu un truc aussi extraordinaire. « Dieu est un pur esprit infiniment parfait. » Qu'est-ce que ça pouvait être ? Je restais la bouche ouverte. J'avais perdu le fil de la suite. Je me réveillais en entendant la maîtresse qui demandait plus fort, en nous regardant d'un air sévère. « Qu'est-ce que Dieu ? Dieu est un pur esprit infiniment parfait, » répondirent les autres tranquillement. Je n'avais pas pu répondre avec elle, je ne comprenais pas la phrase, pas un seul mot. Ça commençait mal.
Nicolas naquit en février, avant sa date. Un moment, j'avais cru que c'était fini. Elle était tellement patraque depuis le bébé mort, et peut-être qu'on lui avait tout enlevé par la même occasion, depuis le temps qu'elle en parlait de se faire tout enlever. Tout le monde grandissait, même Catherine, malgré son retard, arrivait à se boutonner toute seule. Je voyais venir le jour où ils seraient tous débrouillés, où je n'aurais plus rien à foutre, et tout repartait à zéro. Et voilà, c'était des passages du premier chapitre, et on passe directement au troisième, qui est le grand départ en vacances.
Alors arrivèrent les vacances. Ce n'était pas leur faute. L'usine fermait en août. Cette fois, on n'irait pas chez la grand-mère à Troyes, lubiner ses carrés et retaper ses cabanes à lapins pour revenir avec des ampoules et des tours de rein. On irait dans un hôtel à la campagne, comme les vrais gens qui vont en vacances, et on se reposerait pour de bon, du matin au soir, sans rien faire que respirer le bon air et faire des réserves de santé pour la rentrée. On partirait le, on irait par, on mangerait à. Bref, en un rien de temps, ils avaient réussi à transformer la fête en un sacré emmerdement. On en parlait depuis Pâques. L'itinéraire, l'hôtel, le programme, l'horaire. Car ils avaient enfin la bagnole, et le chef de famille était passé mécano qualifié. Incollable sur le Delco, les pignons et les pompes, la tête dans le capot le samedi après-midi et le spontex ravageur le dimanche matin, faisant le concours avec Mauvin, laquelle brillerait le plus. Jamais il n'aurait touché à l'évier de la cuisine, mais sa peinture c'était autre chose. Et allez donc que je te brique, et fier comme un pou, on pourrait manger la soupe dessus. Une vraie petite ménagère. Enfin on partit, tous en cœur entassés. Cette année, pour bien que tout le monde profite de la voiture et se rende compte que le père en avait une, personne n'avait été mis à la colonie. Au diable l'avarice. Et ça c'était bien dommage, les seules bonnes vacances qu'on prend, c'est celles des autres. Papa conduisait comme un cochon. Tous les autres chauffards de la route le lui faisaient bien remarquer, et j'avais les chetons à chaque fois qu'il essayait de doubler une bagnole. C'était une vieille traction ce qu'on avait. Il disait que ça devait doubler et tout, à cause de la tenue de route. La tenue de route, ça devait être vrai. Sinon, avec papa, elle n'y serait pas restée longtemps. Chaque fois qu'un de ses excités sortait sa sale gueule de sa quincaillerie pour le traiter de connard, son aîné rougissait. Il avait honte de son père. Et depuis le début, il était en fureur parce que l'on n'avait jamais laissé toucher à la précieuse mécanique. C'était un point sur lequel le père ne cédait pas. Toutes les 25 bornes, Patrick demandait qu'on lui laisse le volant, rien qu'un peu, et le père répondait fermement que non. « Merde, je ferai au moins aussi bien que toi, » dit Patrick, humilié une fois de plus car le père venait de se faire agonir pour un Kingston. « J'avais la priorité !» proclama le vieux, en accélérant victorieusement au virage qu'il prit à la corde à gauche. Dieu merci, il ne venait personne en face. « Un si gros que ça a toujours été la priorité, » fit remarquer Patrick. D'ailleurs, il venait de droite et on était dans une agglomération. « de droite, je vais te la faire voir la droite » dit-il en la lâchant du volant pour l'envoyer dans la figure du rebelle. La mère serra sa Chantal sur son cœur en voyant arriver la platane. Le père rattrapa le volant à deux mains. De justesse, le fils n'eut pas la beigne. Il profita aussitôt de la situation. « De droite, la droite, c'est là !» dit-il en la montrant. De fait, c'est bien Patrick qui avait raison. « Je sais ce que j'ai à faire !» déclara le père, qui puisait dans la tenue d'un volant une autorité nouvelle. Pendant un moment, on tapa le 110 en silence. « Pipi !» dit Catherine. « Ah non !» dit le père. « J'ai envie !» dit Catherine, et elle se mit à pleurnicher. « Tu attendras qu'on prenne de l'essence !»« Tu sais bien qu'elle ne peut pas attendre !» dit la mère, plaintivement. « Elle va faire dans sa culotte !»« Ah là là !» dit le père, pour gagner encore un peu de temps.
Alors c'était Chantal qui avait mal au cœur. Elle ne supportait pas la voiture. Et finalement, il avait fallu la mettre devant avec la mère, près de la vitre, en cas. Patrick était au milieu, entre le père et la mère. Moi derrière, j'avais Nicolas sur moi et la moitié de Catherine. Les jumeaux étaient tassés dans l'autre coin, regardant le pays et échangeant leurs impressions dans leur javanais à eux, qu'ils s'étaient fabriqués pour qu'on ne les comprenne pas. Aux arrêts, Nicolas cueillait des fleurs et les lâchait en l'air pour voir si elles allaient voler. On remontait dans la voiture où le père restait s'impatienter en regardant sa montre. « Avec vous autres, j'arriverai jamais à tenir ma moyenne. » Patrick se mit à rigoler bruyamment. « Toi, je vais te laisser sur la route, » dit le père. « Je vais te laisser sur la route, tu vas voir. » Il pensait que quitter sa belle voiture, c'était un châtiment suprême. « Ok, » dit Patrick. « J'aime mieux être orphelin que d'être mort. Comme on n'était pas encore démarré, il eut sa gifle. Le père avait une faiblesse pour l'aîné de ses garçons, celui qui le continuait en somme. Mais question voiture, c'était un autre homme. Plein d'allant, de dynamisme, d'autorité, ça le révélait. Descends, dit-il en ouvrant la porte de droite, devant laquelle la mère achevait de reculoter Catherine. Maurice, dit la mère faiblement. Ça lui servira de leçon, dit le chef de famille. Ce morveux, ça lui servira de leçon, tiens. Sur le bord de la route, Patrick jubilait. Le père démarra avec difficulté parce qu'il s'était mis dans un tas de sable. Aussitôt commença une scène avec la mère, qui trouvait qu'il avait été trop dur, qui voulait qu'on retourne. Lui ne voulait pas. J'en ai marre à la fin de ce morveux, toujours à critiquer ce que font les autres. Dans le fond, ça le soulageait de ne pas l'avoir à côté de lui en train de lui faire remarquer toutes ces conneries. Nous, on les remarquait aussi, mais au moins on les bouclait. Il s'offrait une petite récréation. Quand il eut assez profité, il se laissa fléchir. Il doit avoir compris maintenant, dit-il. Et il exécuta sur la route un demi-tour qu'il valait mieux que Patrick n'ait pas vu. Et il nous dit que les vitesses dans la traction, ça grinçait toujours.
Et après quelques aventures, ils vont retrouver Patrick, qui s'est trouvé une belle Cadillac pour avancer un petit peu.
Dans la Cadillac, dit Patrick, les phares s'allument automatiquement quand le jour baisse. La ferme, dit le père avec ta Cadillac. Patrick nous les casse, dirent les jumeaux. Patrick nous les casse, Patrick nous les casse, pas casse, nous les trique, tricasse les patates. Allez-vous vous taire, dit la mère. Ah, ces gosses. On n'est jamais tranquille avec ça, même en vacances. Ils ne nous laissent pas, même pas profiter du moment. Dire qu'il faut traîner ça, soupira le père accablé. Pourquoi que tu nous as fait ? Dit parmi les soupirs la petite voix de Nicolas, supposée endormie. Ils ne répondirent pas. On entendit des gloussements. C'était nous, pour un instant unis dans une douce rigolade. On avait tout de même quelque chose en commun, les parents.
Et voilà, on avance un peu dans l'histoire. Et donc on arrive au cinquième chapitre où j'ai un petit blanc sur le prénom de
Gauthier.
De notre personnage principal qui est Louise, il me semble. Josiane, si je me rappelle bien. Ouais. C'est Josiane. Donc Josiane devient adolescente et commence à guicher, rencontrer les garçons. Et donc c'est un peu ce passage-là que nous vous racontons maintenant.
Je regardais les garçons caracoler le soir, après 6 heures, à la grille, appuyer sur la pédale, faire du bruit, filer, revenir, faire des cercles. Ce machin-là était rudement pratique. Les uns avaient un vrai scooter, les autres une petite moto, rouge ou bleue, les plus bêtes avec des franges. Moi, des franges, je m'en serais bien passé, pourvu que ça roule. Je les voyais se lancer sur l'avenue, à 3 ou 4, des fois avec des filles en croupe. J'en crevais d'envie. Des scooters, je veux dire. Je les dévorais des yeux. Ces idiots-là, naturellement, croyaient que c'était à eux que j'en avais. Ils faisaient des ronds autour de moi pour me faire voir comme ils étaient fortiches. Moi, je regardais les roues et leurs pieds pour voir comment ils les manœuvraient. Ethel était plus intelligente que moi sur des tas de points. Mais la vérité, c'est que sur celui-là, j'en savais plus long qu'elle et qu'à côté de moi, toute savante qu'elle était, elle n'était qu'une môme. D'ailleurs, c'était visible rien qu'à sa façon de se tenir et de marcher, sagement, sans regarder autour, toujours en train de réfléchir en elle-même. J'étais comme ça avant. Maintenant, je tenais le beau milieu des allées et je regardais les gens en pleine figure. J'avais le diable dans la peau en ce moment. J'aurais tout bouffé, même des pères de famille. Mais sauf exception, ils se contentaient de me jeter des petits regards furtifs et passaient leur chemin en direction des bobonnes et des fricots et des mômes qui braillent, ce qui me faisait bien marrer car je savais ce qu'ils pensaient. Je commençais à connaître les hommes. Ils étaient juste trop lâches pour faire ce qu'ils avaient envie.
Je dis sauf exception parce qu'il y eut une exception, René. Il avait l'œil plus vif que les autres et plus insistant. Toute la question est là. Au lieu de fuir, il accrochait. Si bien qu'au bout d'un moment, il en crevait d'envie, c'était visible. Et je ne fus pas étonnée quand il m'aborda. Il commença par me dire d'un ton sévère, ou enfin faisons comme si, pour tâter le terrain, qu'il ne faut pas regarder les hommes comme ça. Ou alors il arrive des accidents, menaça-t-il. Voyant que je n'avais pas l'air de m'excuser, je rigolais. Et si des fois je ne savais pas ce qu'il voulait dire par là, ajouta-t-il avec l'œil de plus en plus allumé, il était prêt à me montrer. Et tout en parlant, il regardait tout autour, comme s'il cherchait un endroit pour... Et là, je partis franchement à rire, parce que ça, chercher un coin discret ici, et alors... c'était du délire. Dedans comme dehors, on était nus comme un ver. Et dans le champ de vision de quelqu'un qu'on ne voit pas, surtout qu'en plus, ils ont des jumelles pour la plupart. Bref, un samedi après-midi, il raconta à sa femme qu'il allait au bazar, acheter des outils, et on se retrouva, marchant dans les fourrés de Vincennes, à la recherche du fameux coin tranquille, à l'abri des regards indiscrets, qu'il avait l'air de particulièrement craindre, car j'étais mineure. De nous deux, c'est lui qui avait le plus les jetons. Mais il avait encore plus envie que peur, et me serrait derrière, m'attrapant de temps en temps et me pressant contre lui pour me faire voir où il en était rendu.
C'est que t'es vachement bandante,
disait-il.
Tu me rends fou, tu sais. Tiens, regarde.
Ce n'était pas une blague. Enfin, on trouva un coin avec de la belle herbe. Moi, j'aime l'herbe. Il avait de grandes mains larges, qui prenaient tout à la fois.
Et c'est frais, frais comme un bouton de rose. Ah, tiens, tu l'as voulu.
Je crus qu'il allait m'écraser. Je ne pouvais plus bouger, j'étais clouée. Il était installé de tout son poids et arrimé à fond.
Quand je pense que j'ai une fille de ton âge. Quand je pense que j'ai une fille de ton âge.
Répétait-il.
Quand je pense que j'ai une fille de ton âge.
Et il n'y mettait pas moins d'ardeur. Je dois dire que j'en eus bien du plaisir. Plus qu'avec les garçons. Peut-être parce qu'il était plus lourd, ou que j'étais fière d'avoir un vrai homme. Pas de doute, les garçons, c'est encore très frêle, très léger. Un homme fait plus d'effet. J'en restais tout amolie.
Quand je pense que j'ai une fille de ton âge.
Me redit-il après, une fois rhabillé, prêt à rentrer. Mais pas sur le même ton que tout à l'heure. Il me regardait en hochant tristement la tête.
C'est malheureux.
Ajouta même-t-il. Merde alors. On rejoignit la route. J'aurais bien recommencé. Ça devait être l'inconvénient des hommes. Par rapport aux garçons, ils ne recommencent pas aussitôt. Il était pressé de rentrer à cause de sa femme et du bazar.
Tu m'as rendu fou.
Soupira-t-il à l'arrivée du bus.
C'était un moment de folie. Un merveilleux moment.
Précisa-t-il.
Merveilleux. De folie. Mais quand je pense qu'à ton âge déjà, tu vois, ça me bouleverse dans le fond. Je sais pas quoi penser.
Pense pas, je lui dis.
Si, justement.
Il voulait penser. Tout à l'heure, dans les fourrés, il n'y pensait pas à penser.
Dans le fond, c'est terrible. Je m'en veux. J'aurais pas dû. J'aurais dû prendre sur moi. Puisque toi, mais tu m'as rendu fou. Tu ne devrais pas regarder les hommes comme tu fais. Qu'est-ce que tu veux? C'est ta faute aussi. Ils sont faibles, les hommes. Ils peuvent pas résister quand une fille les regarde comme tu fais.
On monta dans le bus qui nous ramena porte de Vincennes. Là, on prit le 115. Je descendrai comme devant la maison, lui continuerait. Il voulait essayer d'arriver au bazar avant la fermeture, de façon à ramener à sa femme n'importe quoi enveloppé dans le papier du magasin.
Faut que tu me pardonnes. Faut qu'on oublie ça, hein? Promets-moi. Promets-moi que tu ne regarderas plus les hommes comme ça. Promets-moi de ne plus faire des choses pareilles. Tu ne sais pas sur qui tu peux tomber. Il y a des salauds. Ils ne sont pas tous comme moi, tu sais. Un moment de folie et c'est toute une vie gâchée. Quand je pense que tu as l'âge de ma fille, ça me fait froid dans le dos.
Avant, ça lui faisait plutôt chaud. J'éprouvais pas le besoin de discuter. J'étais légèrement engourdie. On était de plus en plus entassés sur la plateforme à mesure que les gens montaient.
Mignonne comme t'es, ce serait trop dommage.
Je le regardais avec un grand sourire. Les chaos du bus nous jetaient l'un contre l'autre, je laissais aller et je sentais qu'ils commençaient à récupérer. Il leur faut le temps.
Penser que tu vas aller faire ça avec n'importe lequel, ça me rend enragé. Un beau petit corps comme ça.
Profitant d'un chaos, il me retint. Quand on arriva à mon arrêt, il ne lui restait plus beaucoup de morale. Il ne disait plus un mot. Je demandais « Ta fille, c'est Juliette à loin ?» J'eus le temps de voir sa gueule se figer. Il murmura quelque chose comme je descendais, du genre « Tu ne vas pas... » J'étais partie. Du trottoir, je le regardais sur sa plateforme. Il était vert de peur. Ils sont formidables. Du reste, il ne s'était pas passé 3 jours qu'il me refaisait de l'œil. Moi, je filais. À la fin, il me demanda si j'étais fâchée et si je lui en voulais.
On n'était pas bien là-bas ?
Je ne me plains pas.
Alors ?
Quand est-ce qu'on y retourne ? Ne dit-il pas. Ça lui avait repris. Ce qu'il leur faut, c'est simplement un petit peu de temps, de repos. Je lui dis. J'ai suivi tes conseils, j'ai acheté une conduite.
Non ?
Dit-il, ne sachant pas comment le prendre. Si me féliciter ou quoi. Oui, je ne couche plus avec les pères de famille. C'est bon un homme, mais il y a des limites. Il était furieux. Il partit les dents serrées et le reste en bandoulière. Ils sont formidables. J'étais contente de moi. Il y a des plaisirs supérieurs à ceux de la chair.
Mais ce qui me faisait encore plus marrer, c'est les bonnes femmes. Là, je m'en payais. Depuis que je me baladais dans une jupe du prix unique en Vichy formidable, que j'avais réussi à me faire payer et que j'avais raccourci au dernier degré de la mode, elle me faisait une sale bobine. Je n'étais plus une bonne petite maman. Dieu sait ce que j'étais. J'avais entendu une dire à l'autre « Ah, cette façon qu'elle a de marcher !»« Ah bah ça promet, hein !» répondit l'autre. Sans doute pas suffisamment informée. Tout ça assez fort pour qu'évidemment je l'entende, afin que j'ai honte. Je ne sais pas quelle façon j'avais de marcher, en tout cas j'aurais pas voulu la leur. On aurait dit qu'elles avaient du plomb dans le cul. Toute leur connerie devait être redescendue là. Bon Dieu, ce que j'aimais pas les bonnes femmes. Comment une chose pareille peut-il arriver à exister? Pourquoi c'est pas dans les eaux? Toute la journée ça geint, ça se traîne, ça peut pas faire 3 mètres sans se planter. C'est agglutiné devant le petit commerce comme des paquets de moules, et je suis polie, hein. Elles se racontent leur malheur. Non mais quel malheur. Et le soir ça pleurniche que c'est claqué. Et qu'est-ce que ça a donc tant produit, je vous le demande, à part de la mauvaise cuisine. Ça oblige de pauvres types qui d'ailleurs ne méritent pas mieux à s'échiner pour leur acheter des appareils coûteux. Et à crédit en plus, pour leur épargner du travail. D'ailleurs ça a toujours fait pratiquement... D'ailleurs, ça a toujours fait faire pratiquement par les mômes. Et c'est toujours aussi fatigué. À croire que la fatigue, c'est leur seule véritable profession. Je connais rien de plus inutile sur la terre que les bonnes femmes. Si, ça pond.
Et voilà, c'était Les petits enfants du siècle de Christiane Rochefort. Un parler assez cru, hein, comme on a pu se rendre compte. Bon, on ne va pas faire de commentaires, juste passer un petit passage musical avec Paris Combo, le Living Room.
Nous sommes tous nés d'amour dans de vieux pays où seuls de vieux, de très vieux singes assis aux commandes de nos libertés, aux manettes de nos intégrités. Alors tapons-nous sur le nez, ça les fait toujours rigoler. Allez oui, tapons-nous, entre nous ça leur fera toujours de gros sous quand ils nous vendront des canines et des idées malsaines pour que nos petites vies s'enfouissent dans la violence et la haine. Alors quoi, on va coucher dehors, sous des ponts d'or, trop reconstruits pour aller de leur cuisine à leur living room. C'est pas du temps, c'est le living room. Des vieux singes savants, c'est le living, 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 living room. C'est pas du temps, c'est le living, 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 living room. C'est pas du temps, c'est le living, 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 living room. Nous sommes tous nés, mon ami. Tous vivants, c'est inscrit dans notre œil, tu vois, au fond, ça lui. D'une envie de vivre, d'une envie de parcourir le monde, cette bonne terre si gironde. Mais non, voilà qu'on en gronde, car sans le laisser passer, faut pas se laisser aller, à rêver d'une autre vie. Mon ami, non, 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 faut pas rêver, car pour rêver, faut des laisser passer du papier pour passer sa vie de l'autre côté du pont. Des ponts d'or dehors, y'en a des tonnes. C'est pas qu'on les ignore, car on les voit souvent passer de leur cuisine à leur living room. C'est pas du temps, c'est pas du temps, c'est le living room. Des vieux singes savants, c'est
des éléphants, des gnous, des girafes, des orang-outans. Dans nos réserves, sous surveillance, et pour mal voir, s'égarer en troupeau ou bien tout seul, isolé dans les réserves d'à côté. On est sûr de tomber sur un as, un astéopathe de première qui vous démembrera, c'est son appel. C'est l'envie des voyages interdits, interdits dans nos vieux pays. Vous savez que de très vieux singes sont assis dans la cuisine. Ils gambergent pour améliorer leur living room. C'est pas de temps, c'est le living room. Des vieux singes savants, c'est le living room.
Voici, on continue au Théâtre de la Gamelle. Donc, on vient de terminer les passages de Petits Enfants du Siècle, où on a terminé sur Josiane qui s'en prend aux bonnes femmes, entre guillemets. Donc, elle ne met pas de guillemets, hein, mais du coup, c'était aussi pour montrer comment les meufs se retrouvent souvent en concurrence. Soit elles sont les femmes à marier, soit elles deviennent les putes du quartier, se critiquent entre elles et elles ne font pas forcément d'alliance entre elles. Voilà. Mais on passe maintenant à un tout autre texte, qui est Peau de Dorothy Allison. Donc Dorothy Allison, qui est Dorothy Allison? Bah, je vous ai fait une petite présentation quand même. Elle est née en 1949 en Caroline du Sud. Et donc, c'est une écrivaine américaine d'un milieu prolétaire. Elle grandit dans un milieu très pauvre. Et elle est lesbienne. Et donc, elle écrit cette double identité, même si elle est bien d'autres identités. Mais en tout cas, comment elle existe et se retrouve dans ces deux catégories-là. Une question de classe. La première fois que j'ai entendu « ils sont différents de nous, ils n'accordent pas la même valeur que nous à la vie humaine », j'étais au lycée en Floride. L'homme qui parlait était un recruteur de l'armée s'adressant à une bande de garçons, leur expliquant ce qu'était vraiment l'armée et ce à quoi ils devaient s'attendre outre-mer. Un sentiment de colère froide m'avait envahi. J'avais entendu le mot « il » prononcé sur le même ton dur avant. Ils, ces gens là-bas, ces gens ne sont pas nous. Ils meurent si facilement, s'entretuent si aisément, ils sont différents. Nous, j'ai pensé. Moi. Lorsque j'avais 6 ou 8 ans à Greenville, en Caroline du Sud, j'avais entendu ce même ton de rejet, en l'occurrence employé à mon égard. Ne joue pas avec elles. Je ne veux pas que tu leur parles. Ma famille et moi, nous avons toujours été eux. Qui suis-je ? Me demandais-je. En écoutant ce recruteur. Qui sont mes semblables? Nous mourons si facilement, disparaissons si sûrement, nous, eux, les pauvres et les homosexuels. J'ai pressé mes pauvres poings osseux et blancs contre ma bouche de lesbienne têtue. La fureur était une bonne sensation, plus forte et plus pure que la honte, je lui succédais, que la peur et l'envie soudaine de courir et de se cacher, de nier, de faire semblant de ne savoir ni qui j'étais, ni ce que ce monde me faisait. Les gens comme moi n'étaient pas remarquables. Nous étions ordinaires, mais même ainsi, nous étions des mythes. Nous étions ce « eux » dont tout le monde parle, les pauvres bougres. J'ai grandi en essayant d'échapper au sort qui a détruit tant de gens que j'aimais, et en ayant pris l'habitude de me cacher, j'ai découvert que j'avais aussi pris celle de me cacher de moi-même. Je ne savais pas qui j'étais, je savais seulement que je ne voulais pas être eux, ceux qui sont détruits ou écartés pour que les vraies personnes, les gens importants, se sentent plus en sécurité. Une fois que j'ai compris que j'étais homosexuelle, cette habitude de me cacher était ancrée en moi, si profondément que ce n'était plus un choix mais de l'instinct. se cacher pour survivre, je pensais. Étant entendu pour moi que si je disais la vérité sur ma vie, ma famille, mon inclination sexuelle, mon histoire, je me retrouverais dans ce territoire inconnu, le pays des îles, sans jamais aucune chance de mettre un nom sur ma propre vie, de la comprendre ou de la revendiquer.
Je sais que je suis lesbienne depuis mon adolescence et j'ai passé une bonne vingtaine d'années à panser les plaies de l'inceste et des mauvais traitements. Mais ce qui est sans doute le fait marquant de ma vie, c'est celui d'être née en 1949 à Greenville, en Caroline du Sud, et d'être la fille naturelle d'une femme blanche issue d'une famille désespérément pauvre, une femme qui avait quitté la quatrième l'année précédente, travaillait comme serveuse et avait juste 15 ans et un mois lorsqu'elle m'avait eue. Ce fait, l'impact auquel je n'ai pas pu échapper d'être née dans des conditions de pauvreté que cette société trouve honteuses, méprisables et quelque part méritées, a eu le dessus sur moi à un point tel que j'ai passé ma vie à essayer de le surmonter ou de le renier. J'ai appris avec beaucoup de douleur que la grande majorité des gens pensent que la pauvreté est une condition de vie volontaire. J'ai aimé ma famille si obstinément que chaque geste pour la maintenir dans le mépris a allumé chez moi un contre-feu de fierté. Compliquée par l'envie sous-jacente de nous couler dans les mythes et les théories acceptables de la société en général et de sa réinterprétation lesbienne féministe. Le choix devient soit les films de Steven Spielberg et les romans de Erskine Caldwell, l'un mettant en valeur et l'autre caricaturant, soit le patriarcat comme scélérat, banalisant les choix que les hommes et les femmes de ma famille ont faits. J'ai eu à combattre de vastes généralisations issues de tous les points de vue théoriques. La théorie féministe traditionnelle a eu une compréhension limitée des différences de classe, ainsi que de la façon dont la sexualité et le moi sont façonnés à la fois par le désir et par la dénégation. Cette théorie suggère que nous sommes toutes des sœurs qui devrions seulement diriger notre colère et notre méfiance vers le monde extérieur à la communauté lesbienne. Il est facile de dire que le patriarcat est la cause de tout, que la pauvreté et le mépris sont des produits de la société patriarcale, et j'ai souvent ressenti le besoin de confondre mon vécu sexuel avec ce que j'étais d'accord pour partager de mes origines de classe, de prétendre que ma vie en tant que lesbienne et ma vie de femme issue de la classe ouvrière étaient toutes deux construites par le patriarcat. Ou, inversement, d'ignorer combien ma vie fut façonnée par le fait de grandir pauvre et de ne parler que de l'influence de l'inceste sur mon identité de femme et de lesbienne. La difficulté réside dans ce que je ne peux pas imputer purement et simplement la source de mes problèmes dans la vie ni au patriarcat, ni à l'inceste, ni même à la structure de classe de notre société, invisible et objet de déni.
J'ai essayé de faire partie de la communauté lesbienne féministe afin de me sentir réelle et dotée d'une valeur. Je ne me rendais pas compte que je me cachais, me fondant au milieu des autres par sécurité comme je l'avais fait au lycée et à l'université. J'ai trop connu cette attitude pour l'oublier. Je croyais que toutes ces choses dont je ne parlais pas ou auxquelles je ne voulais même pas trop penser n'étaient pas importantes, qu'aucune ne me définissait. J'avais bâti une vie, une identité dont j'étais fière. J'avais une autre famille, la famille lesbienne, dans laquelle je me sentais en sécurité. Et je n'avais pas réalisé que mon moi fondamental avait presque disparu. La première fois que j'ai lu les poèmes d'Irena Klepfitch, lesbienne et juive, j'ai éprouvé comme un frisson de reconnaissance. Non pas que mes semblables aient été rayés de la carte ou assassinés comme l'ont été les siens. Non, nous avions été encouragés à nous détruire nous-mêmes. On nous avait rendus invisibles parce que nous ne collions pas au mythe, engendré par la classe moyenne, des bons pauvres. Même maintenant, à 40 ans passés et obstinément fière de ma famille, je ressens le poids de cette mythologie, de cette vision romancée et tronquée des pauvres. Je me retrouve à regarder vers mon passé en me demandant ce qui a été réel, ce qui a été vrai. À l'intérieur de ma famille, tant de choses étaient sujettes à mensonges, plaisanteries, dénis, ou dites de façon délibérément indirecte d'une sourde humiliation, ou accompagnées d'une brève grimace pincée qui démentait tout ce qui venait d'être dit. Qu'est-ce qui était vrai ? La pauvreté décrite dans les livres et les films était romantique, servant de toile de fond à l'histoire de personnages qui arrivaient à s'en échapper.
La pauvreté dont les intellectuels de gauche faisaient le portrait était tout aussi romantique une tribune pour taper sur les hautes et moyennes classes, et dans leur perspective, le héros de la classe ouvrière était invariablement masculin, vertueusement indigné et inhumainement noble. La réalité, faite de haine de soi et de violence, était ou absente ou caricaturée. La pauvreté que je connaissais était monotone, anesthésiante, honteuse. Les femmes y avaient du pouvoir, mais sur des critères qui n'apparaissaient pas comme héroïques au reste de la société. On ne voyait les vies de ma famille ni à la télévision, ni dans les livres, ni même dans les bandes dessinées. Il existait un mythe des pauvres dans ce pays, mais il ne nous incluait pas, malgré tous les efforts que je faisais pour nous y faire rentrer de toutes mes forces. Il y avait une notion des bons pauvres, travaillant dur, déguenillés mais propres et intimement honorables. J'ai compris que nous étions les mauvais pauvres. Les hommes buvaient et étaient incapables de garder un travail. Les femmes, invariablement enceintes avant le mariage, devenaient rapidement usées, grosses et vieilles, d'avoir trop travaillé et porté trop d'enfants. Les enfants avaient le nez qui coule, les yeux humides et des mauvaises manières. Mes cousins ont quitté l'école, volé des voitures, pris de la drogue et fait des métiers qui ne mènent à rien, comme pompiste ou serveur. Nous n'étions ni nobles, ni reconnaissants, ni même pleins d'espoir. Travailler, économiser, lutter ou se battre pour quoi? Nous avions eu les générations précédentes pour nous apprendre que rien n'avait jamais changé et que ceux qui avaient tenté d'y échapper avaient échoué.
Ma maman avait 11 frères et sœurs et je ne connais le nom que de 6 d'entre eux. Aucun n'est encore vivant pour me dire le nom des autres. C'est ma grand-mère qui m'a parlé de mon vrai papa. Un bel homme sans ambition qui s'était marié, avait eu 6 enfants et qui vendait des assurances-vie au rabais à des noirs sans le sou. Ma maman s'est mariée quand j'avais 1 an, mais son mari est décédé 1 an plus tard, après la naissance de ma petite sœur.
Mon beau-père travaillait comme vendeur itinérant, ma mère comme serveuse, blanchisseuse, cuisinière ou ouvrière pour emballer les fruits. Je n'ai jamais pu comprendre, vu qu'il travaillait si dur et tant d'heures par jour, que nous n'ayons jamais assez d'argent. Mais c'était également le cas des frères et sœurs de maman qui trimaient dur dans les minoteries et les aciéries. En fait, mes parents y arrivaient mieux que n'importe qui dans la famille. Mais par la suite, mon beau-père a été licencié et nous avons touché le fond. Des mois de cauchemars avec les huissiers à la porte, les meubles repris et les chèques en bois. Mes parents ont monté une combine pour qu'on croie que mon beau-père nous avait abandonnés. Mais au lieu de ça, il est descendu en Floride, a eu un nouveau travail et nous a loué une maison. Il est revenu avec un camion U-Haul en pleine nuit, a emballé nos affaires et nous a emmenés vers le sud.
Nous imaginons tous que nos vies sont normales et je ne savais pas que la mienne n'était pas celle de tout le monde. C'est en Floride que j'ai commencé à comprendre combien nous étions différents. Les gens que nous rencontrions là-bas n'avaient pas été façonnés par la structure de classe rigide qui dominait le Piémont de Caroline du Sud. La première fois que j'ai regardé mes camarades de collège et que j'ai pris conscience que je ne savais pas qui ils étaient, non seulement en tant qu'individu, mais en tant que catégorie, qui étaient leurs semblables et comment ils se voyaient eux-mêmes, j'ai aussi pris conscience qu'ils ne me connaissaient pas. À Greenville, tout le monde connaissait ma famille. Tout le monde savait qu'on était de la racaille, et cela voulait dire qu'on serait sûrement pauvre, qu'on aurait sûrement des boulots lugubres et mal payés, qu'on tomberait enceinte pendant notre adolescence et qu'on ne finirait jamais l'école. Mais la Floride, dans les années 60, était pleine de fuyards et d'immigrants. Notre école de la banlieue ouvrière, majoritairement blanche, nous classait non pas d'après le revenu et les origines familiales, mais d'après des tests d'intelligence et d'aptitude. Soudain, j'ai été propulsée sur la voie menant aux études supérieures, et alors que l'on me méprisait pour mon talent inexistant en société, ma garde-robe lamentable et mon long accent traînant, il y avait également quelque chose que je n'avais jamais connu avant, un anonymat protecteur ainsi qu'une sorte de respect et de curiosité réticent concernant mon avenir. Parce qu'ils ne voyaient pas la pauvreté et le désespoir comme une issue courue d'avance pour moi, j'ai pu commencer à imaginer d'autres avenirs pour ma vie.
Peut-être passer derrière ton dernier passage parce qu'il est...
« je sais que j'ai été haïe parce que j'étais lesbienne, à la fois par la société et le milieu plus intime de ma famille, au sens large. Mais j'ai été également haïe ou méprisée, ce qui est d'un certain côté plus fragilisant et insaisissable que la haine, par des lesbiennes dont le comportement et les pratiques sexuelles avaient été forgés par leur classe sociale. Mon identité sexuelle est intimement façonnée par ma classe sociale et ma région d'origine. Et la haine dirigée contre mes préférences sexuelles est pour une grande part dirigée contre mon milieu social. Bien que beaucoup de gens, les féministes en particulier, aiment prétendre que ce n'est pas un facteur. Le genre de femme qui m'attire est invariablement le genre de femme qui embarrasse les lesbiennes féministes des classes moyennes, respectables et politiquement sensibilisées. Mon idéal sexuel féminin fait mec est exhibitionniste, doté d'un physique agressif, c'est une femme plus intelligente qu'elle ne veut le faire croire et fière d'être traitée de perverse. Le plus souvent, elle fait partie de la classe ouvrière. Le plus souvent, elle a une aura de danger et un humour plein d'ironie. Beaucoup de nos contemporains prétendent faire preuve d'une grande tolérance sexuelle, mais le fait que ma sexualité soit construite au cœur du fétichisme cuir et autour de relations passives-actives est largement considéré avec du dégoût ou une haine catégorique.
Témoignage rare et précieux de Dorothy Allison, c'est Poe, qui a été traduit très récemment en français. Ça a mis très longtemps avant d'être traduit, alors qu'il a été Poe. Ouais.
P-E-A-U.
Tout à fait. Voilà, c'est un texte qui a été publié depuis plusieurs années et traduit seulement récemment. Donc profitons-en et n'hésitez pas à lire Poe de Dorothy Allison. On passe à un petit extrait musical. C'est Anne Sylvestre, Tiens-toi droit.
Tiens-toi droit. Si tu t'arrondis, tu auras l'air d'une arche. Tiens-toi droit. Si tu t'arrondis, tu auras l'air de quoi? Tu auras l'air d'un pont, même pas de pierre. L'air d'un pont de bois, l'air d'un pont d'acier. Tu auras l'air d'un tronc par-dessus la rivière. Tu auras l'air d'un rien sur quoi je peux marcher. L'air d'un trait d'union, l'air d'une passerelle. L'air de ce par quoi je peux aller plus loin. L'air d'un fond sonore, l'air d'une ritournelle. L'air d'une musique dont je n'ai pas besoin. Tiens-toi droit, si tu t'arrondis, tu auras l'air d'une arche. Tiens-toi droit, si tu t'arrondis, tu auras l'air de quoi? Tu auras l'air d'un peu, l'air d'un plus grand chose. L'air d'un intermède, d'une récréation. L'air d'un amant pour bibliothèque rose. D'un soupirant pour représentation. L'air d'un grand chemin comme tous les autres. Prêtant à mes pas son sol aplani. L'air d'un macadam, l'air d'un qui se vautre. Content, bien content de ses avanies. Tiens-toi droit, si tu t'arrondis, tu auras l'air d'une arche. Tiens-toi droit, si tu t'arrondis, tu auras l'air de quoi? Mais moi je ne veux pas que tu t'arrondisses. Je veux contre toi toujours me heurter. Laisse-moi tous les précipices que sous mes pas l'amour va susciter. Je ne veux pas de pont, je veux des rivières. Je veux des torrents ou tourbillons. Je veux cette vie, je la veux entière. Même si mon cœur y doit suffoquer. Mais tiens-toi droit, ne t'arrondis pas. Il faut que je marche. Tiens-toi droit, si tu t'arrondis, j'aurai l'air de quoi?
Et le dernier extrait, on va passer au dernier livre de cette émission. Donc c'est La place de Annie Ernaux. Mais qui est Annie Ernaux?
Oui, Annie Ernaux est une femme en lettres françaises et professeure de lettres, née en 1940. Et elle a notamment eu pour ce livre La place, en 1984, le prix Renaudot. Bon, ensuite elle a eu tout un tas d'autres prix et elle a notamment un prix à son nom. L'essentiel de son œuvre est autobiographique et elle a un style neutre. Afin de rester dans la ligne documentaire de faits historiques, c'est comme ça qu'elle le dit. Et dans ce livre notamment, elle évoque sa vie dans le contexte ouvrier de la guerre 39-45, ainsi que son départ dans les études, qui l'éloigneront de son père et de son milieu d'origine.
L'histoire commence quelques mois avant le XXe siècle, dans un village du pays de Caux, à 25 km de la mer. Ceux qui n'avaient pas de terre se louaient chez les gros fermiers de la région. Mon grand-père travaillait donc dans une ferme comme charretier. L'été, il faisait aussi les foins, la moisson. Il n'a rien fait d'autre de toute sa vie, dès l'âge de 8 ans. Le samedi soir, il rapportait à sa femme toute sa paye et elle lui donnait son dimanche pour qu'il aille jouer au domino, boire son petit verre. Il rentrait saoul, encore plus sombre. Pour un rien, il distribuait des coups de casquette aux enfants. C'était un homme dur. Personne n'osait lui chercher des noises. Sa femme ne riait pas tous les jours. Cette méchanceté était son ressort vital, sa force pour résister à la misère et croire qu'il était un homme. Ce qui le rendait violent, surtout, c'était de voir chez lui quelqu'un de la famille plongé dans un livre ou un journal. Il n'avait pas eu le temps d'apprendre à lire et à écrire. Compter, il savait. Je n'ai vu qu'une seule fois mon grand-père, à l'hospice où il devait mourir 3 mois après. Mon père m'a amené par la main à travers 2 rangées de lits, dans une salle immense, vers un très petit vieux, à la belle chevelure blanche et bouclée. Il riait tout le temps en me regardant, plein de gentillesse. Mon père lui avait glissé un quart d'eau de vie qu'il avait enfoui sous ses draps. Chaque fois qu'on m'a parlé de lui, cela commençait par « il ne savait ni lire ni écrire », comme si sa vie et son caractère ne se comprenaient pas sans cette donnée initiale. Ma grand-mère, elle, avait appris à l'école des sœurs. Comme les autres femmes du village, elle tissait chez elle pour le compte d'une fabrique de Rouen, dans une pièce sans air, recevant un jour étroit d'ouverture allongée, à peine plus large que des meurtrières. Les étoffes ne devaient pas être abîmées par la lumière. Elle était propre sur elle, et dans son ménage, qualité la plus importante au village, où les voisins surveillaient la blancheur et l'état du linge en train de sécher sur la corde, et savaient si le seau de nuit était vidé tous les jours. Bien que les maisons soient isolées les unes des autres par des haies et des talus, rien n'échappait au regard des gens, ni l'heure à laquelle l'homme était rentré du bistrot, ni la semaine où les serviettes hygiéniques auraient dû se balancer au vent. Naturellement, pas d'autre choix que l'usine. Au sortir de la guerre, Y commençait à s'industrialiser. Mon père est entré dans une corderie qui embauchait garçons et filles dès l'âge de 13 ans. C'était un travail propre, à l'abri des intempéries. Il y avait des toilettes et des vestiaires séparés pour chaque sexe, des horaires fixes. Après la sirène, le soir, il était libre et il ne sentait plus sur lui la laiterie. Sorti du premier cercle. À Rouen ou au Havre, on trouvait des emplois mieux payés. Il lui aurait fallu quitter la famille, la mère crucifiée, affronter les malins de la ville. Il manquait de culot. 8 ans de bête et de plaine. Il était sérieux, c'est-à-dire pour un ouvrier, ni feignant, ni buveur, ni noceur. Le cinéma et le Charleston, mais pas le bistrot. Bien vu des chefs, ni syndicat, ni politique. Il s'était acheté un vélo, il mettait chaque semaine de l'argent de côté. Ma mère a dû apprécier tout cela quand elle l'a rencontré à la corderie, après avoir travaillé dans une fabrique de margarine. Il était grand, brun, des yeux bleus, se tenait très droit et se croyait un peu. Mon mari n'a jamais fait ouvrier. Elle avait perdu son père. Ma grand-mère tissait à domicile, faisait des lessives et du repassage pour finir d'élever les derniers de ses 6 enfants. Ma mère achetait le dimanche avec ses sœurs un cornet de miettes, de gâteaux chez le pâtissier. Ils n'ont pu se fréquenter tout de suite. Ma grand-mère ne voulait pas qu'on lui prenne ses filles trop tôt. À chaque fois, c'était les 3/4 d'une paye qui s'en allait. Les sœurs de mon père, employées de maison dans des familles bourgeoises, ont regardé ma mère de haut. Les filles d'usine étaient accusées de ne pas savoir faire leur lit, de courir. Au village, on lui a trouvé mauvais genre. Elle voulait copier la mode des journaux, s'était fait couper les cheveux parmi les premières, portait des robes courtes et se fardait les yeux, les ongles des mains. Elle riait fort. En réalité, jamais elle ne s'était laissée toucher dans les toilettes. Tous les dimanches, elle allait à la messe et elle avait ajouré elle-même ses draps, brodé son trousseau. C'était une ouvrière vive, répondeuse. Une de ses phrases favorites : « Je vaux bien ces gens-là !» Sur la photo du mariage, on lui voit les genoux. Elle fixe durement l'objectif sous le voile qui lui enserre le front jusqu'au-dessus des yeux. Elle ressemble à Sarah Bernhardt. Mon père se tient debout à côté d'elle. Une petite moustache et le col à manger la tarte. Il ne sourit ni l'un ni l'autre.
Pour manger, il ne se servait que de son Opinel. Il coupait le pain en petits cubes, déposés près de son assiette pour y piquer des bouts de fromage, de charcuterie et saucé. Me voir laisser de la nourriture dans l'assiette lui faisait deuil. On aurait pu ranger la sienne sans la laver. Le repas fini, il essuyait son couteau contre son bleu. S'il avait mangé du hareng, il l'enfouissait dans la terre pour lui enlever l'odeur. Jusqu'à la fin des années 50, il a mangé de la soupe le matin. Après, il s'est mis au café au lait, avec réticence, comme s'il sacrifiait à une délicatesse féminine. Il le buvait, cuillère par cuillère, en aspirant, comme de la soupe. À 5 heures, il se faisait sa collation. Des œufs, des radis, des pommes cuites, et se contentait d'un potage pour le soir. La mayonnaise, les sauces compliquées, les gâteaux le dégoûtaient. Il dormait toujours avec sa chemise et son tricot de corps. Pour se raser, 3 fois par semaine, afin d'éviter la cuisine, surmontée d'une glace, il déboutonnait son col. Je voyais sa peau très blanche à partir du cou. Les salles de bain, signe de richesse, commençaient à se répandre après la guerre. Ma mère a fait installer un cabinet de toilette à l'étage. Il ne s'en est jamais servi, continuant de se débarbouiller dans la cuisine. Dans la cour, l'hiver, il crachait et il éternuait avec plaisir. Ce portrait, j'aurais pu le faire autrefois en rédaction à l'école, si la description de ce que je connaissais n'avait pas été interdite. Un jour, une fille en classe de CM2 a fait s'envoler son cahier par un splendide atchoum. La maîtresse au tableau s'est retournée. Distingué, vraiment.
Je travaillais mes cours, j'écoutais des disques, je lisais, toujours dans ma chambre. Je n'en descendais que pour me mettre à table. On mangeait sans parler. Je ne riais jamais à la maison. Je faisais de l'ironie. C'est le temps où tout ce qui me touche de près m'est étranger. J'émigre doucement vers le monde petit bourgeois, admise dans ces surbooms dont la seule condition d'accès, mais si difficile, consiste à ne pas être cucu. Tout ce que j'aimais me semble pecno, Luis Mariano, les romans de Marianne Desmarais, Daniel Gray, le rouge à lèvres et la poupée gagnée à la foire qui étale sa robe de paillettes sur mon lit. Même les idées de mon milieu me paraissent ridicules. Des préjugés, par exemple, la police s'il en faut, ou on n'est pas un homme tant qu'on n'a pas fait son service. L'univers pour moi s'est retourné. Je lisais la vraie littérature et je recopiais des phrases, des vers qui, je croyais, exprimaient mon âme, l'indicible de ma vie, comme « Le bonheur est un dieu qui marche les mains vides » Henri de Régnier. Mon père est entré dans la catégorie des gens simples ou modestes ou braves gens. Il n'osait plus me raconter des histoires de son enfance. Je ne lui parlais plus de mes études. Sauf le latin, parce qu'il avait servi la messe, elle lui était incompréhensible et il refusait de faire mine de s'y intéresser, à la différence de ma mère. Il se fâchait quand je me plaignais du travail ou critiquais les cours. Le mot « prof » lui déplaisait, ou « dire l'eau », même « bouquin », et toujours la peur, ou peut-être le désir, que je n'y arrive pas. Il s'énervait de me voir à longueur de journée dans les livres, mettant sur leur compte mon visage fermé et ma mauvaise humeur. La lumière sous la porte de ma chambre le soir lui faisait dire que je m'usais la santé. Les études, une souffrance obligée pour obtenir une bonne situation et ne pas prendre un ouvrier. Mais que j'aime me casser la tête lui paraissait suspect. Une absence de vie à la fleur de l'âge. Il avait parfois l'air de penser que j'étais malheureuse. Devant la famille, les clients, de la gêne, presque de la honte, que je ne gagne pas encore ma vie à 17 ans. Autour de nous, toutes les filles de cet âge allaient au bureau, à l'usine, ou servaient derrière le comptoir de leurs parents. Il craignait qu'on ne me prenne pour une paresseuse et lui pour un crâneur. Comme une excuse. On ne l'a jamais poussée, elle avait ça dans elle. Il disait que j'apprenais bien, jamais que je travaillais bien. Travailler, c'était seulement travailler de ses mains.
Quelque chose d'indistinct, une gêne après les repas. Il prenait de la magnésie, redoutant d'appeler le médecin. À la radio, enfin, le spécialiste de Rouen lui a découvert un polype à l'estomac qu'il fallait enlever rapidement. Ma mère lui reprochait sans cesse de se faire du souci pour rien. Culpabilité, en plus, de coûter cher. Les commerçants ne profitaient pas encore de la sécurité sociale. Il disait « c'est une tuile ». Après l'opération, il est resté le moins longtemps possible à la clinique et il s'est remis lentement à la maison. Ses forces étaient perdues. Sous peine d'une déchirure, il ne pouvait plus soulever de casier, travailler au jardin plusieurs heures d'affilée. Désormais, spectacle de ma mère courant de la cave au magasin, soulevant les caisses de livraison et les sacs de patates, travaillant double. Il a perdu sa fierté à 59 ans. « Je ne suis plus bon à rien », il s'adressait à ma mère. Plusieurs sens peut-être.
Décidé maintenant à profiter un peu de l'existence, il se levait plus tard, après ma mère, travaillait doucement au café, au jardin, lisait le journal d'un bout à l'autre, tenait de longues conversations avec tout le monde. La mort, allusivement, sous forme de maxime, on sait bien ce qui nous attend. À chaque fois que je rentrais à la maison, ma mère, « Ton père, regarde-le, c'est un coq en pâte !» À la fin de l'été, en septembre, il attrape des guêpes sur la vitre de la cuisine avec son mouchoir et il les jette sur la plaque à feu continu du poêle allumé déjà. Elle meurt en se consumant avec des soubresauts. Ni inquiétude, ni jubilation, il a pris son parti de me voir mener cette vie bizarre, irréelle, avoir 20 ans et plus, toujours sur les bancs de l'école. Elle étudie pour être professeur. De quoi ? Les clients ne demandaient pas. Seul compte le titre, et il ne se souvenait jamais. L'être moderne. Ne lui parlait pas comme auraient pu le faire les mathématiques ou l'espagnol. Craignant qu'on ne me juge trop, toujours trop privilégié, qu'on ne les imagine riches pour m'avoir ainsi poussé, mais n'osant pas non plus avouer que j'étais boursière, on aurait trouvé qu'ils avaient bien de la chance que l'État me paie à ne rien faire de mes 10 doigts. Toujours cerné par l'envie et la jalousie, cela peut être de plus clair dans sa condition. Parfois, je rentrais chez eux le dimanche matin après une nuit blanche. Je dormais jusqu'au soir. Pas un mot, presque de l'approbation. Une fille peut bien s'amuser gentiment, comme une preuve que j'étais tout de même normale. Ou bien une représentation idéale du monde intellectuel et bourgeois, opaque. Quand une fille d'ouvrier se mariait enceinte, tout le quartier le savait.
Ah voilà, bah, alors il y avait encore un petit passage. Dernier passage ? Allez Louise.
Pardon, je reprends. Aux vacances d'été, j'invitais à Y une ou deux copines de fac. Des filles sans préjugés qui affirmaient « c'est le cœur qui compte ». Car, à la manière de ceux qui veulent prévenir tout regard condescendant de leur famille, j'annonçais « tu sais, chez moi c'est simple ». Mon père était heureux d'accueillir ces jeunes filles si bien élevées, leur parlait beaucoup, par souci de politesse, évitant de laisser tomber la conversation, s'intéressant vivement à tout ce qui concernait mes amis. La composition des repas était source d'inquiétude. Est-ce que Mademoiselle Geneviève aime les tomates ? Ils se mettaient en quatre. Quand la famille d'une de ses amies me recevait, j'étais admise à partager de façon naturelle un mode de vie que ma venue ne changeait pas. À entrer dans leur monde qui ne redoutait aucun regard étranger et qui m'était ouvert parce que j'avais oublié les manières, les idées et les goûts du mien. En donnant un caractère de fête à ce qui, dans ces milieux, n'était qu'une visite banale, mon père voulait honorer mes amis et passer pour quelqu'un qui a du savoir-vivre. Il révélait surtout une infériorité qu'elle reconnaissait malgré elle en disant par exemple « Bonjour monsieur, comment ça va-t-il ?» Un jour, avec un regard fier, « Je ne t'ai jamais fait honte. »
Voilà, c'était donc la place de Annie Ernaux, un peu la question de l'ascension sociale dans les familles et du décalage entre générations. Ben, on espère que vous avez apprécié ces lectures, tout le monde. Et voilà, dernier commentaire. Eh ben merci, à bientôt.
Merci beaucoup.
À bientôt.
À bientôt.
À bientôt.